Salut Mermet, 4 Robert à l'appareil, 4 Robert des Lilas. Alors je t'appelle, je viens d'entendre l'émission sur la GCS et je dis oui, encore oui. Continue à nous informer sur ce putain d'accord qui va vraiment nous modifier la vie sociale. Et parle-en, essayons de faire un réseau, je sais pas, il y en a un qui parlait d'un réseau. Et puis qu'est-ce que c'est que ces zones où on peut ne pas l'appliquer? Ça serait bien aussi d'avoir un peu plus d'informations pour savoir si on peut pousser nos élus dans nos petites banlieues pour arriver à le faire admettre. Voilà, zone anti-AGCS.
Oui, je voudrais dire que on n'a déjà pas le droit d'être herboriste en France, mais je suis sûr que avec l'AGCS, tel Zorro, l'AGCS va nous libérer. Enfin, on aura le droit d'être herboriste en France. J'ai confiance, j'ai vraiment confiance.
Oui, bonjour, Yann Salin de Rennes. Je vous appelle ce vendredi soir pour vous féliciter de l'émission concernant l'AGCS. Et je pense que ça doit gratter bien des esprits de soulever un coin du voile. Et je vous en félicite, je vous encourage. Tant et plus. Voilà, à bientôt et bravo. Merci.
Bonjour Daniel Mermet. Vous avez, lors du Forum social européen, rappelé Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire librement. C'est Orwell qui a dit « Parler de liberté n'a de sens qu'à la condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ». Très bien. Mais l'intervention de Tarek Ramadan à ce forum, comme à la télé lors du débat avec Nicolas Sarkozy, pourrait être l'occasion, me semble-t-il, de nous poser une question qui coiffe, telle une kippa, un voile ou un sanctuaire, toutes les autres. Cette question, je vous la soumets. Doit-on, en politique et dans les débats publics, faire une place au fidéisme? Autrement dit, la foi doit-elle primer sur la raison? Le moment n'est-il pas venu de répondre à cette question, à la veille de légiférer sur le port du voile à l'école et d'y enseigner l'histoire des religions, à la veille d'introduire des références religieuses dans la Constitution européenne? Dans son livre « Et l'homme créa les dieux », Pascal Boyer nous met en garde. La religion est une épidémie qu'on peut attraper facilement. Et oui, il y a des athées et des agnostiques qui écoutent là-bas si j'y suis. C'est Pierre, au cœur de l'Ardèche. Allez, au revoir.
Hakim de Valence. Je rêve, c'est carrément hallucinant. On est passé, nous, en tant qu'émigrés, de la case émigrée à la case beurre, et de la case beurre à la case musulman, sans passer par la case citoyen. Monsieur Sarkozy fait semblant de découvrir que Tarek Ramadan est musulman. Il l'a jamais caché d'ailleurs. Et moi en tant que citoyen, je m'en fous de savoir qu'il est musulman. De la même façon, je m'en fous de savoir s'il y aura un préfet musulman. C'est pas mon souci. En tant que musulman, en tant que citoyen, j'allais faire un lapsus à force de le répéter sur toutes les ondes. Non, en tant que citoyen, ce qui m'intéresse, c'est comment on va régler la crise du logement que l'on connaît actuellement, les 250 000 chômeurs qui n'auront plus de chômage, les crédits supprimés dans tous les sens, le service public que l'on démonte partout, notamment dans les quartiers, c'est ça qui m'intéresse. Pas de savoir si là on est musulman ou pas, c'est pas le souci. Allez, ciao.
Beaucoup de messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. C'est ma formule à peu près chaque jour. Après ces quelques messages qu'on écoute en début d'émission, beaucoup de messages. Et maintenant, cette fois-ci, suite au reportage de vendredi, le reportage de Guy Van Til sur la GCS, il n'y a pas eu tellement de messages, à part par ceux venant de ceux qui connaissent déjà et qui encouragent. C'est que c'est difficile, c'est très difficile de faire comprendre ce qu'est cet accord général pour le commerce des services. Il faut dire que c'est pas sexy, hein. Et les gens de la com de l'OMC nous l'ont dit, ils ont exactement utilisé cette formule, c'est pas sexy. Et c'est pour ça que ça marche, c'est parce que c'est difficile à piger et à faire piger. Alors, on y reviendra. On reviendra sur ce thème-là. Mais c'est vrai que vous n'avez pas été très nombreux à suivre. Voilà, à suivre donc. Aujourd'hui, on part dans une toute autre direction sur la délinquance des jeunes. Les jeunes délinquants, vous savez qu'il y a des tout un ensemble de lois qui ont été adoptées concernant notamment les centres éducatifs fermés et concernant la délinquance des mineurs. Alors, avec Guy Vanctil, dans les jours prochains, on va aller dans une prison pour mineurs. Mais aujourd'hui, avec Thierry Scharf, on va revenir en arrière sur l'histoire et la mémoire de ce qu'ont été ces fameuses maisons de redressement. Et là, précisément, la colonie, j'allais dire pénitentiaire, oui, mais qui était une colonie agricole à Maitray, dans l'Indre-et-Loire, où 10 000 enfants ont été placés. 10 000 entre sa création en 1840 et sa fermeture en 1937. 10 000. Et on en a retrouvé un. On a retrouvé Raoul Léger, qui va nous raconter ce qu'a été sa vie, ces 5 années de sa vie passées dans cette colonie agricole et pénitentiaire de Maitray, les souvenirs d'un colon. Voilà, auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. Si j'y suis, alors là j'articule bien parce qu'on me le reproche. 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Aujourd'hui, il y a une émission super intéressante. Malheureusement, je suis sur la route et France Inter, c'est TDF. TDF qui retransmet, c'est vraiment hyper énervant, hyper énervant. À Calvi, on capte super bien toutes les merdes qu'on veut, que ce soit énergie, truc. On capte aussi très très bien les radios italiennes. Et sur une heure d'émission, à tout casser, j'ai réussi à en entendre 5 minutes, c'est le bout du monde. Et ça me gaffe parce qu'en plus, on peut même pas les réécouter sur le net. J'ai pas trouvé. Voilà, ça, donc ça me gonfle super super grave et je suis pas content du tout. Après ce TDF de merde et France Inter qui met pas les moyens ou qui fait pas ce qu'il faut pour que ça soit correctement retransmis. Voilà. Je vous fais écouter ce qu'on entend en bagnole quand on essaie d'écouter France Inter en Corse à Calvi. Ça revient. Ah, on va. Quelques mots, j'ai entendu Georges Bush. Ah, raté. Ah, c'est les infos. Tant pis pour Mermet, maintenant c'est les infos. J'ai la chance et je pourrais peut-être entendre la pub ou la météo.
Aujourd'hui.
Ah, miracle. Ça y est, on a retrouvé France Inter. Voilà, au bout d'une heure de merde, voilà, j'ai enfin retrouvé France Inter. Pile poil quand ça m'intéresse pas, je suis vachement content.
Je dis comme ceux de samedi dernier devant les deux synagogues sont des Turcs. Des islamistes radicaux, et de l'enquête, le directeur des services de renseignement.
Un cul, merde!
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf. Là-bas, si j'y suis, peine perdue.
Flight number 2, arriving from New York.
Hé, rendez-moi toutes mes affaires, là, ouais.
Autour de l'île, il y a de l'eau. Au-dessus de l'île, il y a des oiseaux. Bandits, voyous, voleurs, schnappants. C'est la meute des honnêtes gens qui font la chasse à l'enfant. La chasse à l'enfant. Chaque fois que j'arrive à Belle-Île en mer, dans le bateau, je pense au poème de Prévert, La chasse à l'enfant. La colonie. Longtemps, il y eut à Belle-Île-en-Mer une colonie pénitentiaire, une maison de redressement, on disait aussi bagne pour enfants. Il y a même eu une fameuse révolte en 1934 à Belle-Île-en-Mer qui a inspiré ce poème à Jacques Prévert. Mais aujourd'hui, joli décor oblige, on n'en parle guère à l'estivant en lui vend la poésie de l'île et pas les ombres au tableau. Une île, ça vous protège et ça vous enferme. Tantôt protégé, tantôt enfermé. Eh bien, c'est pareil pour le schnappant, le sauvageon, comme dit l'autre, le mineur délinquant. C'est pareil. Tantôt, la société le protège, tantôt, la société s'en protège. Au fil des siècles, en matière de délinquance des jeunes, la question a été, l'enfant est-il en danger? L'enfant est-il un danger? Dire au fil des siècles, c'est volontairement rester flou. La question s'est vraiment posée à partir des Lumières, à partir du 18e. Répressif ou éducatif? Alors vous allez dire les deux. Il faut être répressif et éducatif. Eh bien, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça dans le mot éducation. Surveiller, il y a quelque chose qui ne va pas forcément de soi. Selon des professionnels, et notamment les professionnels du syndicat de la protection judiciaire de la jeunesse, on ne peut faire de l'éducatif que dans la liberté. C'est autour de ces préoccupations et de ces sujets qu'on va tourner cette semaine, en commençant, comme je vous le disais, par revenir en arrière dans cette colonie pénitentiaire agricole de Maitrey.
Un beau jour, Jacques Prévert et moi, nous parlions des maisons de redressement, des bagnes d'enfants, dont l'un se trouvait à Belle-Île. C'est de cet entretien qu'est née la chasse à l'enfant.
Bandit, voyou, voleur, schnappant.
Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau.
Bandit, voyou, voleur, schnappant. Qu'est-ce que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la nette et honnête gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens s'y sont mis.
France Inter,
ici c'est bois d'artiste, je te dis pas, c'est la merde, on mange que des petits pois.
Entre la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, le poème de Jacques Prévert, interprété ici par la splendide Marianne Oswald, et aujourd'hui, Bois d'Arcy, les jeunes délinquants ont une histoire, une longue histoire, et on va commencer presque par le début, évidemment pas tout à fait par le début, mais par le début de l'histoire moderne de ces colonies pénitentiaires et autres maisons de redressement. Pourquoi ça ? Parce que les lois qui ont été adoptées en septembre 2002, loi Perben, ont, en apportant une importante réforme de la justice des mineurs, ne peut pas ne pas renvoyer à ces époques. Si notre époque est bien, comme le dit certains, un grand bond en arrière, alors il était normal que la justice concernant les mineurs délinquants fasse de même. Ces prisons pour enfants, colonies, maisons de redressement, ont toutes été fermées avec le temps, la plupart dans les années, au cours des années 70, je pense à la colonie de Belle-Île. Celle de Maitrey, l'une des plus fameuses, est fermée en 1937. Entre les deux guerres, il y a eu des campagnes, pas seulement celles menées par le journaliste Albert Londres contre le bagne de Cayenne, mais aussi bien en France contre ces colonies. Alors on va rencontrer un, ça c'est formidable, c'est des documents magnifiques, Raoul Léger. Raoul Léger, aujourd'hui, il a 80, plus de 90 ans, et il a vécu dans cette, survécu, comme on voudra, dans cette colonie agricole et pénitentiaire de Maitrey, de 1922 à 1927.
Vous savez, c'était pas rébarbatif quand on arrive à Maitrey. Vous auriez dit à quelqu'un qui connaissait pas à camp de vacances bientôt, vu de l'extérieur comme ça et machin.
C'est où alors, Maitrey?
C'est tout près de Tours, à 12 kilomètres de Tours. Vous n'avez rien de rébarbatif, c'est quand vous arrivez après. Parce que tous les colons étaient partis travailler. Colonie, c'était marqué au-dessus, colonie agricole de Maitrey. Je l'ai pas lu à cette époque-là. Je l'ai lu quand je suis...
Est-ce que vous saviez pas lire?
Non. Et à Maitrey, soi-disant qu'on allait à l'école, c'est faux. C'est faux. C'était vraiment le militaire, hein, il fallait qu'on marche au pas, tout ça, et il fallait voir ça. J'en ai à dire, hein. Écoutez bien, à Maitrey, je vais vous dire la nourriture à Maitrey. C'était le matin, soupe panée, vous savez, du pain, avec de l'eau, ni plus ni moins, qu'ils avaient mis 2-3 oignons peut-être dedans, je sais pas, pour faire... Et c'était tout, que de la soupe au pain. On mangeait ça au boulot. Le midi, c'était du pain. Je vous dirais une chose, hein. Question de quand on n'était pas puni, question de manger, on avait à manger assez. Hein. Mais c'était haricots le midi, haricots le soir. Haricots le midi, haricots le soir. Pendant 5 ans, vous entendez, j'ai toujours mangé que des haricots. Ils avaient tellement de champs, comprenez, il y avait environ presque 1000 hectares, hein. Alors il fallait de la main d'œuvre, ça.
J'en ai beaucoup à dire, dit Raoul Léger, 92 ans aujourd'hui. Il vit à Lille, c'est là que Thierry l'a rencontré. Alors qu'est-ce que c'était que cette colonie agricole de Maitrey en Indre-et-Loire. Elle est connue aujourd'hui pour y avoir hébergé Jean Genet. Mais Jean Genet n'a été que l'un des 10 000 jeunes hommes. Je ne sais pas s'il y avait des filles. Je ne crois pas qu'il y ait eu des filles. Il n'y en avait pas. Mais il y avait donc 10 000 garçons, jeunes garçons, qui sont passés dans cette colonie. Et c'est évidemment pas la seule. En France, j'ai parlé de Belle-Île. Il y en a eu beaucoup d'autres. Alors à quoi ça ressemblait? Comment? Pourquoi ces colonies? D'où venait cette idée? On a rencontré Jean-Jacques Ivorel, qui appartient au Centre National de Formation d'Études de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, dont je parlais tout à l'heure, et qui fait partie de l'Association pour l'Histoire de l'Éducation Surveillée et de la Protection Judiciaire des Mineurs. Un expert.
Maitrey, c'est une colonie agricole. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est la colonie emblématique, c'est la première. la plus célèbre, le modèle visité, la référence en matière de colonie agricole.
Ça date de quand ?
Ça ouvre en 1839. Donc, au moment où Raoul Léger passe, on approche du centenaire, qui ne sera pas fêté puisque l'institution ferme en 37. Donc
1937.
Maîtresse, c'est la colonie agricole. Alors, c'est des institutions qui sont donc créées au 19e siècle, avec l'idée déjà que la ville est corruptrice et qu'il faut donc envoyer les enfants à la campagne, hein, et les rééduquer par le travail agricole. Alors c'était l'idée de transformer les petits citadins en ouvriers agricoles, parce que c'est ça qui était, c'était une idée en soi un petit peu saugrenue. Et si je dis ça, c'est elle a été dès le départ un certain nombre d'observateurs disent que c'est une idée saugrenue. Hein. Ces colonies agricoles donc partaient d'une idée qui se voulait généreuse. Hein. De Metz, son fondateur est un magistrat qui se désole de devoir envoyer des enfants en prison, avec l'idée que cette prison est sans doute pas une bonne chose. Donc il crée cette institution pour offrir une alternative à la prison. Un défenseur de la colonie agricole qui s'appelle Charles Lucas dira il fallait sauver le colon, ce qu'on appelait les jeunes des colonies, les colons. Sauver le colon par la terre et la terre par le colon. Très souvent d'ailleurs, on s'est beaucoup plus préoccupé de sauver la terre par le colon que le colon par la terre. C'est-à-dire en gros, faire travailler une main-d'œuvre gratuite pour valoriser des propriétés foncières. Malgré tout, ça sera pas rentable la plupart du temps. Alors que ils ont une main-d'œuvre gratuite, qu'en plus ils touchent même un prix de journée pour entretenir cette main-d'œuvre, mais j'allais dire le travail servile n'a jamais été le travail le plus productif, et c'est vrai pour les colonies agricoles comme c'est vrai pour tout travail servile. Hein. Alors c'est une colonie agricole qui fait d'ailleurs aussi des travaux industriels. Du genre pif gadget, quoi, c'est-à-dire des petits travaux répétitifs fort peu formateurs pour ceux qui les font. Hein. Et un atelier de brosserie, je crois, à Maitrey, par exemple. Bon, puis différents autres ateliers industriels.
Les enfants arrivent, ils ont quel âge à Maitrey ?
Au début, ils arrivent, ils peuvent avoir 8-9 ans. Après, il y aura des modifications législatives au début du XXe siècle. Ils auront 13 ans. Donc ils ont 13 ans quand ils arrivent à Maitrey, hein, à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle.
Et ils y restent ?
Jusqu'à 21 ans, la plupart du temps. Jusqu'à 21 ans.
Au milieu des champs, l'homme ne pense pas à mal faire. Ainsi parlait et écrivait de Metz, le créateur de cette colonie agricole de Maitrey. Donc, inauguration en 1840, on est dans la monarchie de Juillet, l'essor industriel est considérable, on est dans le début de la révolution industrielle, et ça veut dire l'émergence d'un prolétariat urbain qui va en grandissant, et qui dit prolétariat, dit émeute et révolte, bien entendu. Population laborieuse égale population dangereuse, classe laborieuse, classe dangereuse. Et envers ces classes laborieuses, ces classes dangereuses, eh bien, la société bourgeoise va éprouver des sentiments mêlés qu'elle a toujours aujourd'hui, même si évidemment les choses ont pas mal changé, mais le sentiment est le même, il est double, il est mêlé, il est ambigu, il est fait, tantôt de peur, tantôt de pitié. Ça a changé, les choses ont changé, mais il y a indéniablement une filiation, en tout cas une histoire, entre ces colonies agricoles et aujourd'hui.
J'ai été à Maitrey pour vol, pour avoir volé 100 francs. Imaginez-vous, une fois j'étais en Mauritius, il m'envoie chercher du pain, chez le boulanger. Et en arrivant chez le boulanger, je vois un petit peu avant chez le boulanger, je vois un beau mouchoir par terre. Un beau mouchoir, je le vois encore, vous savez, avec des liserés bleus, tout ça. Je le ramasse, hein, il était tellement beau,
Vous aviez quel âge ?
Ben, j'allais avoir 11 ans, j'avais 10 ans et demi, quoi. Hein, puisque je suis arrivé à Maitrey au mois d'août 1922. Alors donc, je ramasse ce mouchoir. Et dans le coin, qu'est-ce que je vois ? Je vois un nœud. Alors, je défais le nœud. Je vois un gros billet. C'était un billet de 100 francs. Jamais je l'avais touché à un billet de 100 francs. Bon, ben, Je le mets dans ma poche, je dis, je vais pas le donner à la nourrice, pour qu'il n'y ait rien du tout. Et c'est là où j'ai dit, je vais me sauver. Et je me suis donc sauvé.
Parce que vous passiez votre temps à vous sauver des nourrices,
oui,
vous étiez passé.
Sauver. La première chose que j'ai été faire, c'était voir mon frère qui était à Hélène les Marais. Hein. Et je lui ai acheté des bonbons, tout ça. Mais j'ai été pris après. Mais quand ils m'ont pris, ils ont trouvé des sous que j'avais sur moi. Ah là là, quand ils ont eu dit, hein, ils ont compris tout de suite. Hein. Alors, j'étais envoyé à 600 publics. Mais ils m'ont dit que tous ces sous, tu les as volés. J'ai dit non, bam! Allez, à vous que tu les as volés. Bah, j'ai dit non, boum, j'en attends plus une autre. Alors, là, il me dit, écoute, dis la vérité, et on en parlera plus, hop, d'apporter à manger, parce que c'est au pain sec, hein, pain sec et de l'eau, hein. Et il me dit, on te dira plus rien, et ça sera fini, hein. Tu l'as volé à la nourrice, hein. Alors, j'ai dit oui. Je l'ai volé à la nourrice. Alors donc, c'est là qu'ils ont dit, bon ben, comme il fume tout le temps, on va l'envoyer à Maître. Quand on arrivait, on allait à la famille Jeanne d'Arc, on appelait ça. Hein.
Alors c'était organisé par famille, hein, le
par
corps.
Par famille, hein, et par âge. Hein.
Donc les familles, ça voulait dire des groupes,
voilà,
de gamins, qui correspondaient à des classes d'âge.
Oui, oui. De mettons, de tout petit, hein, parce que j'en ai vu arriver à Maître à 7 ans et demi. Hein. Hein, ouais, ouais. Le pire, c'est celui qui arrive, mettons, à 14 ans, qui tombait dans une famille où c'est tout des 14 ans, qui avait fait une toute petite connerie, qui tombait, qui n'avait jamais eu rien, et qui tombait là-dedans. Alors là, c'était le désastre. Hein. Parce que à Maître, 90% des types qui étaient à Maître, c'était tous des enfants de l'assistance publique. Comment je pourrais vous... Ils étaient, c'était dirigé, je vous dirais, le Maître. C'était tous les actionnaires de Maître. D'ailleurs, c'était la justice. Ceux qui s'occupaient de ça, c'était des procureurs de la République, tous des notables. Et alors, ces notables, il y avait même qui étaient au gouvernement. Et tous ces notables passaient à la caisse parce que il fallait que les gosses qui soient là-dedans, qui rapportent. Il fallait que ça rapporte. Comme moi, j'ai travaillé à la brosserie. On était à la tâche.
La brosserie, c'était quoi?
On faisait des brosses, des balais, tout ça, qui vendaient. Et c'était bon, je l'ai su après.
Et vous aviez une dizaine d'années, quoi? Non, même pas.
J'avais 11 ans.
11 ans.
Alors là, j'avais 11 ans. Mais même, vous entendez, même à 12 ans, un petit gamin, on était à la tâche. Et celui qui avait 14 ans ou 15 ans, il avait la même tâche que celui qui avait 11 ans. Mettons, si c'était des brosses en chien-dents, eh bien la tâche, c'était 48 brosses par jour qu'il fallait faire. 48 brosses. Et là, si c'était des balais de coco, c'était 32 balais de coco. Il y avait 98 trous dans le balai, parce que c'était des trous, ils comptaient par trous. Et attention, hein. Parce que si c'était mal fait, qu'est-ce que le type qui faisait une brosse mal, qu'est-ce qu'il prenait comme coup de trique, hein? Il prenait une sacrée trempe, hein? Si bien qu'à la fin, on ne les sentait plus, les coups. On ne les sentait plus. Bam, bam, 3-4 coups de bâton de chacun, on gueulait, mais on ne les sentait plus. Le travail qu'on fournissait, ce qui était vendu. Écoute, vous rendez compte, il y avait 3 grandes fermes à Maître, hein? Il y avait 3 grandes fermes. Ils élevaient tout, des poules, des cochons, des machins. On n'a jamais mangé un morceau de viande. Jamais un œuf.
Jamais, en 5 ans, vous avez mangé de viande.
Jamais, jamais ça, je vous le jure sur la tête de mes gosses. Jamais vous entendez même un œuf. Jamais. Tout était vendu. Les brosses qu'on faisait, c'était vendu aux armes de Saint-Étienne. Tout était vendu. Maître, c'était ça, et quand ils avaient besoin de ma main, ils téléphonaient aux assistances publiques, allez, paf, pour rien, ils envoyaient les types là-bas. C'était l'esclavage. Écoutez, comme dans les pays sous-développés, ils parlent de la Chine, hein, c'était pire qu'en Chine.
petite valse un peu grinçante qui me rappelle les orchestres de bagnards qu'on pouvait entendre, oui, le dimanche à Cayenne ou à la Nouvelle-Calédonie, il y avait les bagnards qui se constituaient comme ça en petits orchestres. Ça nous renvoie à cette époque. Pour les jeunes, donc des colonies pénitentiaires, et là précisément à la colonie agricole de Maitrey. On voit que dans cette époque, tout comme aujourd'hui, la question de s'intéresser, de se pencher sur les causes sociales de la délinquance juvénile n'existait pas trop. On ne pensait pas que ça devait être ça, l'essentiel. L'essentiel, c'est c'est le gourdin, c'est la répression, c'est le répressif. L'éducatif, oui, un petit peu, mais enfin, c'est ça qui plaît au public, c'est ça qui plaît à l'électeur, et c'est ça qu'on applique. C'est dire, si vous écoutez un reportage qui va tout à fait à contre-courant. Alors, peu importe, hein, c'est très précieux d'entendre Raoul Léger, 80, il est né en 1911, ça fait 92 ans, avec cette clarté et cette luminosité d'esprit, c'est formidable. Et puis Jean-Jacques Ivorel, historien du pénitentiaire.
Est-ce qu'on est là dans le prototype du centre fermé là qu'on nous promet aujourd'hui ?
C'est vraiment une forme d'institution totalitaire. Alors là, par contre, hein, dont par exemple Michel Foucault faisait le summum de l'institution disciplinaire. Donc surveiller et punir, il y a un passage sur Maitrey dont il dit que c'est vraiment le summum qui s'est emprunté à toutes les autres formes de discipline, l'armée, le couvent, qui arrive à emprunter donc à toutes les autres structures disciplinaires et à les synthétiser en dans un modèle. Ces colonies agricoles, Maitrey et toutes ces colonies agricoles, reçoivent donc des mineurs pour très longtemps, qui sont des mineurs qui ont été acquittés en général. Hein, c'est ça qui est tout à fait pervers. Ils sont acquittés comme ayant agi sans discernement et envoyés en correction jusqu'à 21 ans pour des délits où des majeurs auraient été condamnés à 2 ou 3 mois de prison. Ce principe de l'acquittement pour non-discernement fonctionne jusqu'en 1945. Et c'est ces structures qui, au départ, partaient d'une idée assez généreuse, même si elle était assez conservatrice, c'est-à-dire c'est la branche conservatrice qui promeut la colonie agricole, hein. C'est pas la bourgeoisie moderniste, hein. C'est l'aristocratie terrienne traditionnelle qui est le promoteur principal de la colonie agricole. Mais il y avait quand même une sorte de générosité. Mais très très vite, ça dérape, et ces institutions deviennent des institutions disciplinaires qui, pour être en plein air, n'en étaient pas moins des bagnes. Les enfants y étaient exploités économiquement, très souvent mal nourris, mal vêtus, les violences physiques y étaient extrêmement courantes. C'est tous les travers que va dénoncer pendant l'entre-deux-guerres Alexis Danan dans une série de campagnes contre les bagnes d'enfants. Dont Maitrey. Et c'est vrai que toutes ces institutions, alors, elles étaient soit publiques, soit privées, j'allais dire, les institutions publiques, au moins, on n'y mourrait pas de faim. Les institutions privées, quelquefois, en plus, on y mourrait de faim.
À 6 heures du matin, on sonnait le réveil, l'hiver, à 6 heures du matin, au Clermont. On se levait, on se lavait, comme ça. C'était un tuyau, il y avait percé de trous, et un filet d'eau, il coulait, et puis on se lavait tous en dessous.
C'était des dortoirs, c'était...
Ah oui, c'était des dortoirs avec des hamacs.
Ah, vous dormiez dans des hamacs?
Ah, dans des hamacs, ah oui. Écoutez, je crois que le type... qui avait conçu Maitrey, ça devait être un ancien marin. Ah oui, parce que tout était, même les tulpes, on avait un béret avec un pompon de...
Ah oui.
Ah oui, des gros sabots aux pieds. Alors on avait la tête rasée à la double zéro tous les 15 jours. Alors à 6h30, on était en bas. Les marmites de soupe arrivaient, on mangeait la soupe finie, 7 heures, on était tous en robe pour partir au boulot. Jusqu'à 7 heures du soir.
7 heures du soir.
Ah oui. On faisait environ 10-12 heures. Ça dépend. Et quand c'était l'été, le jour de la moisson, là, il fallait pas compter les heures, hein. Savez-vous, à Mitré, les gars, ce qu'ils avaient plus peur, c'était des caïds. Vous savez, les petits meneurs, le caïd, c'est le plus fort, quoi, c'est le dominateur. Hein. Moi, j'ai compris, j'ai eu un petit gars, c'est lui qui m'a appris à me bagarrer. C'était un Parisien, je me rappelle un gitan, quand il parlait, je le regardais tout drôle, parce qu'il parlait comme c'était un petit mec qui avait été élevé, vous savez, dans la zone à Paris. C'était un zonard qu'on appelait à l'époque. Dire que j'ai cherché après, j'ai jamais pu retrouver. Il m'avait appris drôlement à me bagarrer, hein, moi, Roger. Hein. Et j'étais devenu un petit caïd, hein, parce que personne n'osait venir m'emmerder, parce que tu fonçais dessus dedans. Jamais ils s'attendaient des fois. Je me souviens à la brosserie, je me suis battu avec le type qui était le plus craint. Et puis il y avait 2 ans de plus que moi. Hein. J'ai mis une trompe, c'est jamais attendu au coup de tête que j'allais y mettre, et puis j'en ai foutu une. Alors il me disait, je me souviens encore ce qu'il me dit, n'attends jamais qu'il frappe, tape tout de suite. Il me disait, tu tapes tout de suite, il dit, t'as gagné, il dit. Un caïd jusqu'à 14 ans, c'était tu vas faire la corvée à ma place, tu vas faire six corvées de chiottes, tu vas faire les chiottes à ma place, si c'est corvée de machin. Si le type, il y avait ses godasses à cirer, il disait tu vas cirer, mais pas les godasses, nos sabots, là, il fallait qu'ils soient propres. Les galoches du dimanche, il fallait que ça soit ciré, il fallait que ça soit... Les boutons qu'on met dans le machin, il faisait faire toutes ces petites corvées, quoi, tout ce qu'il y avait à faire. Et lui, il était le caïd, il foutait rien.
C'est la loi de la jungle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la loi de la jungle.
La prison, c'est pas dur. La prison, c'est la pression.
Allez vous faire victimer ! Bande de victimes !
Parce que je vais vous dire un truc, à Maître. Sur 80... disons 100. Sur 100 personnes qui ont été à Maître, eh bien moi, je suis persuadé qu'il y en a 80% qui ont mal tourné. Surtout pas ceux qui avaient des parents, tout ça. Mais parmi les pupilles de l'assistance publique, moi j'en connais pas mal qui ont été au bagne. Moi j'étais au bagne militaire, bien sûr. Mais eux, au vrai bagne là-bas à Cayenne, il y en a qui ont été.
Hein. Dans les années 20.
Hein. Ah oui, de 22, 25, 22. Alors à l'époque, c'était pas comme maintenant. C'était pas comme maintenant. J'ai connu un gars ici. 3 mois de prison. Un malheureux, quoi. Il avait rentré dans une boulangerie, et puis il avait volé un pain. 3 mois de prison. Volé un pain. Ici à Lille, hein. J'étais revenu, c'était en 1933. Ouais. Un simple vélo, j'ai connu un type aussi. Il avait volé un vélo. Écoutez, il valait pas 20 balles son vélo. Vous savez combien il y a eu? 6 mois de prison. Il avait jamais passé au tribunal, jamais rien du tout. Et il savait pourquoi il avait volé le vélo? Pour lui chercher du travail. Il était parti avec ce vélo, il voulait aller moissonner, vous savez, faire la moisson. Ouais. Et je vous dirais une chose, nous on appelait ça la pédéracie, le pédéras, vous savez, ça se passait plutôt dans les familles au-dessus de 15. Je l'ai jamais vu, famille G, hein, mais on voyait déjà qu'il y avait cette tendance qui s'amenait, hein. Mais alors les familles au-dessus, c'est, chez les grands, ça se passait. Ça a commencé quand j'ai parti à la famille G. Là, il y en avait déjà. Mais attention, hein. S'ils étaient pris à commandant, à PD, quoi, si vous aimez mieux, ils étaient pris à... Alors là, hein, c'était 60 jours de cachot, hein. 60 jours de cachot, tous les deux. Hein, parce que c'était, ils passaient au prétoire du directeur pour immoralité. On les appelait les gailles. Hein.
On y voit aussi bon, alors des phénomènes d'homosexualité, c'est-à-dire, par exemple, dans une de ces structures qui s'appelle S, hein, on a retrouvé des lettres où le jeune dit je supporte plus d'être la femme de machin, enfin écrit à sa famille, si ça continue, je vais me suicider, bon, etc. Donc il est
l'esclave
sexuel d'un caïd. Le système de surveillance connaît ce dispositif, s'en accommode, dans la mesure où ça maintient l'ordre général de la structure. Ça empêche les grandes révoltes collectives et ça maintient l'ordre général de la structure. Dans l'argot des personnels pénitentiaires, la population pénitentiaire est divisée entre pointeurs et pointés. Donc, traduire assez facilement le sens de...
Violeur, violé.
Voilà, ça fait partie de l'argot encore aujourd'hui, hein. Du personnel pénitentiaire, lui c'est un pointé, lui c'est un pointeur.
On parle de zone de non-droit. Zone de non-droit dont on extrairait certains de ces jeunes afin de les placer dans des centres d'éducation fermés, éducatifs fermés. Il y a deux mots qui collent pas très bien ensemble, éducatif et fermé, éducation fermée. Mais dans ces centres, on se demande si il y a du droit. En tout cas, là où nous sommes, dans cette colonie agricole pénitentiaire de Maitret, telle qu'elle est évoquée par Raoul Léger, 92 ans, aujourd'hui, il y est passé, je vous le rappelle, entre de 1922 à 1927, la colonie, cette colonie a fermé en 1937, c'était une zone de non-droit. Enfin, un autre type de droit qui est très connu et qui est très ancien, celui de la prison, qui est un ordre de désordre, qui est un ordre de chaos, qui est un ordre évidemment du plus fort, une métaphore évidemment exagérée, mais de ce que pourrait être l'ultime néolibéralisme.
Roger, il s'est évadé, ils l'ont jamais retrouvé. Je me suis évadé avec.
Ah bon?
Ah ouais, mais moi je me suis fait prendre.
Roger, votre pote Roger, le zonard.
Ah ouais, genre... Eh ben, un jour, on était au dortoir. Alors il me dit, écoute Léger, il dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à me dire. Ben, il dit, je vais me mettre les bouts. Je vais te mettre les bouts, je dis, pourquoi tu vas pas faire ça, je dis. Tu sais, c'est assez rare qu'on se fait pas piquer. Tous ceux qui se débinent, ils reviennent ici, parce que c'était la chasse. Hein, quand ils avaient une prime, les civils, quand ils ramenaient un...
Les gens dans le coin, ouais.
Ah oui, c'était 100 francs, hein, je dirais, tous le savaient. Hein, c'était la chasse après vous, hein. Tu viens avec, il me dit. Alors, j'ai pas voulu me dégonfler. Hein. J'étais pas chaud, hein. Je dis oui. Tu le dis à personne, il dit. Alors, il me dit, tu vois, quand on sera à Paname, il dit.
À Paname?
Oui. Il dit, là, il dit, j'ai mes copains, ils nous retrouveront plus, tu sais. Là-bas, il dit, ils nous retrouveront pas, il dit. Il dit, moi, une fois, mais pas deux, il dit. Alors, on s'est évadé. Mais, dans la journée, on se faisait voir. Donc, là, on a attendu le soir. On s'est fait enfermer dans le réfectoire, on n'a pas bougé, et on a fauché un pas, on a passé par la fenêtre du réfectoire, puis pof, on était tout de suite dans les champs. C'était les champs tout de suite. Tu vois la ferme, là, il dit, je vais aller jeter un coup d'œil, il dit, cette nuit, il dit, dans la ferme. Tu sais rouler en vélo, il me dit. Je dis, non, il dit. Oh, il dit, merci, comment il dit. Je dis, pourquoi? Ah, parce qu'il y a deux vélos, justement, là, dans la ferme, il dit. Je savais pas rouler en vélo, alors je voulais pas y dire que ça me... Elle dit, c'est dommage, il dit ça, ça avec... En deux jours, on est à Paris, avec un vélo. Alors, je dis, ben, écoute, Roger, prends-le, j'ai dit. Moi, je vais sauter dans le train, j'ai dit, je vais tâcher. Quand il est parti, j'ai pleuré, hein, quand, je me retrouvais tout nier, là. J'ai fait le con, j'aurais pas dû, mais en fait, je voulais pas perdre la face avec. Il est rentré dans la ferme, j'avais le trac, je merde bien. C'est vrai que quand on attend, hein, c'est long. Et d'un seul coup, je le vois qui revient avec le vélo. Et je l'ai vu partir, il me dit, bon, je m'en vais, t'as bien compris, il me dit, tu demandes pour aller à Pantin. Tu me souviens? Tu demandes pour aller à Pantin, et quand tu vas être à Pantin, tu demandes pour aller au cimetière de Pantin. Ouais, bon. Et là, quand tu seras au cimetière de Pantin, tu demanderas le père Pinard. Bon, j'ai jamais pu y aller. J'ai jamais pu y aller. Et quand beaucoup plus tard, j'ai demandé le père Pinard. Le père Pinard était mort. Hein. Alors, j'ai jamais retrouvé un rouge. J'ai eu le trac. Un copain comme ça, t'en trouves un dans ta vie. Je crois que j'en ai jamais rencontré un autre. De toute ma vie. Jamais rencontré un autre copain que ça. Et j'y ai toujours pensé. Toujours. J'aurais donné, des milliers de francs pour le revoir. De tout ce que j'avais, je crois, aller dans un restaurant, puis bouffer, aller voir les filles, et puis dire, ça aurait été mon rêve. C'est un copain que je n'ai jamais oublié, tu te rends compte. Et j'avais, à l'époque, j'avais 11 ans, un peu plus de 11 ans. Hein?
Mémoire de Raoul Léger, 5 ans dans la colonie pénitentiaire de Maitrey en Indre-et-Loire de 1922 à 1927 pour ouvrir cette série sur l'éducation surveillée et sur les jeunes délinquants autour évidemment de la question punir pour éduquer. Faut-il punir pour éduquer? Grave et importante question que le pouvoir actuel a réglé, mais la question est-elle réglée pour autant? Raoul Léger, son bilan à 92 ans.
Vous, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience, de ces 5 ans à Maitrey?
L'expérience que je tire, il n'y a rien de bon à tirer d'une maison de correction, quelle qu'elle soit. Vous entendez? Là, ils vont rentrer comme délinquants, ils vont sortir comme des criminels. Ce n'est pas ça qu'ils doivent faire. Moi, je vais vous dire une chose. Quand je suis sorti de machin, j'étais sans rien. L'assistance publique m'a mis dehors avec 500 francs. Quand j'ai eu à acheter des souliers et un pantalon de civil, tout ça, il me restait plus rien. Je couchais dehors. J'ai couché sous les portes de Paris, j'ai couché à la gare, dans des wagons.
Vous aviez quel âge quand vous êtes sorti?
J'avais 16 ans, pas tout à fait 16 ans. Je suis sorti au mois de mai 1927.
Est-ce que vous êtes sorti meilleur?
Ah non.
Ou pas?
Oh non, pas du tout. Que du mal, hein. Parce que le bien, je l'ai appris, j'ai appris à lire le plus à Calvi. Dans la marine, j'ai appris à lire et après je me suis perfectionné au bagne.
Raoul, vous sortez de Maitrey,
oui.
Vous avez 16 ans et vous savez toujours pas lire.
Ah non. Ah non, je savais pas lire. Pas du tout, je savais rien.
Maitrey, c'était l'école du crime.
Ça ne peut être que ça. Vous êtes une cloche ou vous devenez un caïd.
Une cloche ou un caïd.
Voilà. Et je vous dis un truc. Je n'avais peur de personne. Il aurait pu faire 2 mètres hein, et 200 kilos, je crois que j'aurais rentré dedans. Moi, j'ai vu un type, à chaque fois qu'il est contre moi, à chaque fois que je mettais une trempe, et il revenait tout le temps. Tout le temps, il revenait. Donc, un beau jour, ce type-là, Je me souviens qu'il s'appelait comment? Véreux. Véreux, il s'appelait. Il me dit, viens. Ah, je dis, non, c'est toi qui vas venir. Je dis, non, tu viens. Pèse de grande palétasse, je dis, tu viens. J'ai dit, il fonce sur moi. Mais je l'avais vu, hein. Eh, il envoie son pied, mais je lui rattrape le pied, je tenais à bout de bras, comme ça, je le tenais. Je tenais son pied à bout de bras, alors il était là, il dansait, hein. Puis d'un seul coup, je saute, blague! Avec sa jambe, je reviens sur lui, ma tête en plein dans la sienne, hein, comme ça. J'en ai foutu une trente maisons, hein. C'était fini, après, lui, il n'a plus personne emmerdé, hein. Parce qu'il n'y avait pas de cadeau à mettre, rien. Tu mettais un coup de pomme dans la gueule d'un type avec tes sabots aux pieds, hein. Comme ça.
On comprime cette population dans un lieu sans qu'il y ait de soupape possible, ce qui, bien sûr, aboutit à une multiplication des aspects négatifs de chacun de ces mineurs. C'est-à-dire que bon, la violence y est suractivée, puisque bon, dans un foyer classique, un mineur qui est dans un épisode de violence. Très souvent, une des modes de résolution de l'émergence de sa violence, ça va être de claquer la porte et d'aller faire un tour dehors. Si on peut pas claquer la porte et faire un tour dehors, ben, la violence, on la retourne contre les gens qui sont autour de vous. Ces institutions sont marquées par une succession de révoltes. Hein. Alors, des révoltes collectives, par moment, hein, véritables soulèvements, qui ont parfois nécessité l'usage, enfin, la force armée pour ramener l'ordre. Dans plusieurs maisons de correction, on a fait appel à l'armée pour ramener l'ordre lors de soulèvements collectifs. Et puis après, ça ramène aussi toutes les formes de protestation individuelle, soit sous forme de violence individuelle exercée à l'égard de ses codétenus ou du personnel, soit sous forme d'auto-violence. Hein, c'est-à-dire que ces institutions sont aussi des institutions où on se suicide, où on se mutile, où on se... plus importante qu'à l'extérieur, c'est-à-dire beaucoup plus aggravée qu'à l'extérieur. Et c'est aussi des institutions, quand on voit ces colonies agricoles, qu'on suit le livre d'infirmerie, par exemple, bon, on s'aperçoit qu'un nombre tout à fait significatif de mineurs finissent en hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'une autre forme de décompensation, c'est la décompensation psychiatrique, enfin psy. Et qui est importante aussi. C'était quand même une machine à fabriquer de la maladie mentale.
On peut entendre ça aujourd'hui dans un centre comme celui de Bois d'Arcy où des jeunes sont détenus. On ira dans les jours prochains, après-demain, avec Thierry Scharff. Pour l'instant, on est encore avec Raoul Léger, qui se souvient aujourd'hui, mais avec une précision extraordinaire de son, et on le comprend d'ailleurs, de son passage dans cette colonie agricole et pénitentiaire de Maitrey.
Tu sais, je vais te dire un truc, un garçon. Que 30 jours de cachot, seul, dans un trou. Tu sais, pas papa ni maman qui viennent, hein, ça voit un an de prison. Cruel. Tu peux pas te figurer ce que c'est. Parce que moi, je te dis, j'ai été à Maitrey, hein, là-dedans. J'ai fait le machin de cachot qu'on appelait le tombeau. J'y étais pendant 45 jours. Au pain sec et à l'eau. Hein? Tu peux pas figurer. De tout Maitrey, c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est ces 45 jours-là. Ah ouais. On a envie de se tuer. Mais... on a envie de se supprimer.
Merci Raoul Léger, merci Jean-Jacques Ivorel. C'était un reportage de Thierry Scharff. Goyen Guyenne, Christophe Imbert et Antoine Chao réalisaient cette émission modeste et géniale. C'était un reportage, je l'ai dit, de Thierry Scharff. On se retrouve demain à 18h pour La Basse, si j'y suis. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simoncel.